Bonjour et bienvenue pour ce nouveau décryptage en profondeur. Je suis ravie de lancer la discussion aujourd'hui, toujours avec cette même envie d'analyser les mécaniques invisibles de notre société.
Et de mon côté, je suis prêt, comme d'habitude, à apporter une dose de pragmatisme et de scepticisme s'il le faut, pour bien synthétiser les enjeux de notre sujet.
Super. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va commencer par planter le décor. En France, en ce moment même, il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à monter une scène de festival sous une pluie battante.
C'est vrai, on a tous vu ça.
Des gens capables de cuisiner pour 200 inconnus un dimanche matin, ou même de conduire un minibus rempli d'ados à travers tout le pays à 4 heures du matin.
L'engagement physique ou la fatigue, ça leur fait absolument pas peur.
Exactement. Le don de soi est là. Mais demander à ces mêmes personnes, si dévouées, de tracer l'utilisation de 50 euros sur un tableau Excel, et c'est la débandade. Tout le monde fuit.
Et c'est un contraste qui est quand même saisissant. On a tous en tête cette fameuse scène d'assemblée générale. Tu sais, la salle polyvalente, les chaises en plastique, le bilan d'activité qui vient d'être applaudi à tout rompre. L'ambiance est excellente.
Ah oui, on s'y croirait.
Et soudain, le président de l'association prend une grande inspiration. Il s'agrippe à son micro et pose la question fatidique. Bon, qui veut reprendre le poste de trésorier cette année?
Et là, le vide intersidéral. La température de la pièce chute de 10 degrés. D'un seul coup, l'intégralité de l'assemblée se découvre une passion dévorante pour le bout de ses chaussures.
Ou pour les motifs du lino au sol.
C'est ça. Plus personne ne croise le regard du bureau. C'est presque comique vu de l'extérieur. Mais quand on creuse un peu, bah, ce silence en dit long. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu cette situation pour comprendre ce qui bloque. Pourquoi le simple mot « trésorier » brise-t-il net l'élan bénévole? Et surtout, comment transformer ce fort d'eau en opportunité?
Et pour bien comprendre ce blocage, je pense qu'il faut arrêter de se dire que c'est un simple manque de bonne volonté. C'est un mécanisme psychologique assez complexe, en fait. Prenons un ancrage bien réel. L'association Les Arts du Village, dans la région Centre.
Une structure super dynamique, très ancrée dans son territoire.
Voilà. Et pourtant, face au recrutement d'un trésorier, la machine s'enrayait systématiquement. L'exemple typique qu'on y trouve, c'est Pauline.
Une bénévole acharnée, vraiment le pilier de l'association.
C'est ça. Mais dès qu'on lui a suggéré de prendre la trésorerie, veto immédiat, fin de non-recevoir.
Mais attendez, il faut remettre les choses en perspective. Gérer le budget d'une troupe de théâtre locale ou d'un club de sport, c'est fondamentalement la même gymnastique que de gérer un budget course pour une grande famille, non?
Sur le papier, oui.
C'est de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, et on s'assure juste de ne pas être dans le rouge. Pourquoi est-ce que ça provoque une telle panique? On leur demande pas d'introduire une multinationale en bourse, quand même.
Sauf que la perception, elle écrase totalement cette réalité objective. La toute première barrière, c'est le choc de la technicité perçue. C'est frappant quand on regarde les données de l'INJEP de 2023.
Ah oui, ces chiffres sont parlants.
Près de 45% des associations peinent avec leur gestion financière, uniquement par manque de compétences. Et du côté des bénévoles, cette complexité qu'ils perçoivent, ça représente à elle seule 45% des causes de réticence. Le problème, c'est pas l'arithmétique de base, c'est vraiment le changement de référentiel.
L'idée, c'est qu'on a l'impression d'être placé dans le cockpit d'un avion de ligne sans avoir de brevet de pilotage, c'est ça?
Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la technique occulte l'humain.
C'est-à-dire?
L'association, c'est censé être l'humain avant tout.
Bah, c'est justement l'inverse de la fonction de trésorier dans l'imaginaire collectif. L'engagement associatif, ça repose sur la chaleur, le lien social, le terrain. La trésorerie, elle, renvoie à la froideur d'un tableur, à l'isolement, à un jargon avec des mots comme « rapprochement bancaire » ou « plan comptable ». Donc on prend quelqu'un qui est là pour la convivialité et on l'enferme virtuellement dans une caisse avec une calculatrice.
Voilà, c'est le syndrome de la page blanche financière. Se retrouver devant un tableau vide à remplir sans connaître les règles implicites, c'est terrifiant.
Je vois. On passe de l'action collective à une forme de solitude administrative, limite punitive. Mais admettons qu'on parvienne à lever ce premier blocage technique, qu'on explique à la personne comment fonctionne le tableau. Il reste un frein qui est encore plus vicieux, je trouve.
La fameuse épée de Damoclès.
C'est ça. Parce qu'ils partent du principe que responsabilité juridique signifie finir direct au tribunal correctionnel pour avoir perdu le ticket de caisse de la boulangerie après un pot de fin d'année. Alors qu'en réalité, la loi cible probablement les fraudes véritables ou les négligences graves, non?
C'est là que la machine s'emballe, oui. Si on prend le cas de Jacques, un autre bénévole de la même structure que Pauline, sa première réaction, c'est pas de dire « je ne sais pas faire ».
c'est de demander « si je me trompe, est-ce que je vais être poursuivi en justice ?»
Exactement. Et ce qui est terrible, c'est que la crainte de Jacques, elle a un vrai fondement légal. Le guide de la Maïf rappelle très bien qu'un trésorier peut être tenu civilement, voire pénalement responsable, en cas de mauvaise gestion.
Ce qui, philosophiquement, est quand même ahurissant. On parle de personnes qui donnent leur soirée, leur week-end, gratuitement pour la collectivité, et la société leur fait peser le risque d'une faillite personnelle ou de poursuite pour une erreur d'inattention.
Le cadre légal, il est conçu pour éviter les dérives et protéger les fonds. Sauf que ce mécanisme, il se retourne contre l'engagement. Cette peur du gendarme, elle pèse pour 30% dans la balance des refus.
30%, c'est énorme!
Ouais, mais il faut comprendre la mécanique derrière. Quand on signe pour être trésorier, dans l'esprit du bénévole, on fait pas juste des maths. Légalement, on met sa propre intégrité financière en garantie.
C'est un peu comme si on demandait de se porter caution, comme pour un prêt immobilier, pour 50 personnes qu'on croise seulement le week-end.
L'analogie est parfaite. Dit comme ça, forcément, il n'y a personne qui signe.
Mais en vrai, la réalité juridique, elle est aussi féroce que ce fantasme du bénévole jeté en prison.
Non, et c'est bien ça le drame, en fait. Les poursuites contre des bénévoles de bonne foi, c'est extrêmement rare. Il faut généralement prouver une faute détachable de la fonction ou une vraie intention de frauder. Mais c'est le manque de transparence qui transforme ça en monstre sous le lit.
Le vide informatif crée un brouillard.
C'est tout à fait ça. Le bénévole n'a pas fait de droit, il lit le mot « pénal » et son cerveau débranche.
D'accord, donc on a la technicité qui isole et le risque juridique qui terrorise. On pourrait se dire que face à ça, les bénévoles sont armés jusqu'aux dents, qu'on les prépare, qu'on les forme. Mais si on regarde la situation en face, c'est l'inverse. C'est comme donner les clés d'un camion-citerne à quelqu'un en lui disant « débrouille-toi ».
C'est le grand paradoxe de l'engagement. Le décalage est béant. Les chiffres de France Bénévolat sont hyper clairs là-dessus. 60% des bénévoles veulent une formation pour ce rôle.
Et dans les faits ?
À peine 20% en reçoivent une. Du coup, ce manque de formation pèse pour 15% dans la balance.
Ce qui nous amène au troisième grand blocage, la simple physique du temps. Prenons le cas de Céline. C'est une mère de famille, elle a un emploi à temps plein, elle donne déjà un coup de main le samedi. Le rôle de trésorier tel qu'il est conçu classiquement, c'est juste impossible à concilier. C'est un deuxième boulot non rémunéré.
Et le temps, c'est la ressource la plus rare aujourd'hui. L'étude du CERFI montre que 35% des bénévoles redoutent l'engagement supplémentaire que ça demande. La charge de travail brute, c'est les derniers 10% des causes de cette peur.
Mais derrière cette notion de temps, il y a un sujet plus profond.
Oui. Si on connecte ça à la situation globale, on peut vraiment se demander si le monde associatif fonctionne pas depuis trop longtemps sur le mythe du bénévole sacrificiel.
Corvéable à merci, c'est ça, hein ?
Exactement. Le citoyen des années 70, qui avait peut-être un rythme différent et qui passait ses soirées à pointer des relevés bancaires avec une règle et un stylo, le système a tenu sur cette abnégation.
Sauf qu'aujourd'hui, on plaque cette même exigence sur des vies qui sont en accélération constante. Il y a la charge mentale, parfois l'épuisement professionnel.
Et la double peine, c'est que l'exigence administrative a explosé. Il faut naviguer sur des portails en ligne, respecter le RGPD, faire des dossiers de subventions croisés. Donc le cerveau du bénévole fait le calcul. Charge cognitive plus risque juridique plus perte de temps libre, ça donne danger.
C'est un réflexe de survie, pas un manque de courage. Le diagnostic est lourd. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Comment les arts du village ont-ils réussi à briser ce cycle de peur pour finalement trouver leur trésorier ?
Ils ont agi sur l'environnement. Pas sur la psychologie des gens. Le président était très proactif. Il a organisé des réunions avec des experts locaux pour démystifier les craintes juridiques.
Donc pas de lecture du code civil pendant 2 heures.
Ah non, surtout pas. L'idée, c'était de montrer le filet de sécurité. De dire, voilà les limites de la responsabilité et voici l'assurance responsabilité civile qu'on paie pour vous couvrir.
Est-ce que la véritable solution ne réside pas simplement dans le fait de dédramatiser la fonction en modernisant les outils et en remettant de l'humain ?
Totalement. Une fois la peur du gendarme gérée, ils ont mis en place un logiciel de gestion simple. Ça a réduit drastiquement le temps de travail. Fini le vieux tableau Excel ou le cahier à spirale.
Ce qui réduit la charge mentale de manière incroyable.
C'est ça. Le dénouement, c'est que Pauline finit par accepter le poste.
Et elle n'a pas été lâchée dans la nature, si je me souviens bien.
Non, elle a eu une formation courte. Et surtout, un tuyage. Un mentorat avec l'ancien trésorier. Son retour d'expérience est super positif. Elle dit « Oh, finalement, c'est pas si compliqué. J'ai des outils, du soutien et je sais que je suis pas seule. »
La peur n'est donc pas inhérente à la personne, mais à l'environnement défaillant. Si on apporte des solutions concrètes, ça devient valorisant.
Exactement.
Si on résume pour ceux qui nous écoutent, la complexité, le risque juridique et le manque de temps forment une montagne hyper intimidante. Mais avec des formations adaptées, des outils numériques pour alléger la charge et un tuitage humain, on a les piolets pour gravir cette montagne.
Un trésorier serein, c'est le moteur silencieux de toute réussite associative.
C'est joliment dit.
Merci. Mais ça soulève quand même une question beaucoup plus large. Quelque chose qui dépasse les faits stricts, mais qui en découle logiquement.
Je t'écoute.
Si la survie des associations exige aujourd'hui d'utiliser des logiciels professionnels et d'avoir des formations juridiques pointues, est-ce qu'on n'assiste pas à la fin de l'ère du bénévolat amateur ? Le monde associatif de demain devra-t-il obligatoirement fonctionner comme une micro-entreprise pour survivre ?
C'est une réflexion vertigineuse et on laissera cette question en suspens pour nourrir la réflexion de tout le monde. Merci pour cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.